écoutez Fréquence Mistral, il est 11h, nous sommes en direct de Pierrevert pour une émission spéciale. On retrouve François Malabave, bonjour François.
Bonjour Patrice, bonjour à tous, nous sommes effectivement en direct de Pierrevert dans les Alpes de Haute-Provence et au cœur du festival dédié à la photo, les Nuits Photographiques de Pierrevert. Si vous ne voyez pas d'image à la radio, cela ne nous empêche pas d'en parler depuis des années. Ce festival unique dans la région nous accueille chaque été, une heure durant, pour parler de photos avec des photographes. C'est donc une belle émission que nous vous proposons. Nous accueillerons la marraine de l'édition 2014, Sacha, mais également son mentor, l'immense Peter Knapp, ainsi que des photographes moins connus mais pleins de talent, Julie Bourges, Mylène Zizo, Laurent Gate, Daniel Jourdanet ou bien encore les membres du collectif ITEM, en direct du Village d'Or. Bienvenue au Royaume de l'Image. Et on ouvre tout de suite cette émission, bien sûr, en accueillant le président des Nuits Photographiques de Pierrevert, Stéphane Kosman. Bonjour Stéphane.
Bonjour François.
Un rappel peut-être sur le fait qu'à Pierrevert, il y a beaucoup de photographes de talent comme vous-même et qui ont organisé ce festival il y a 6 ans déjà.
Déjà 6 ans. D'abord, merci à Fréquence Mistral. Merci François pour être avec nous depuis le début. On apprécie beaucoup, beaucoup ton intervention à chaque fois.
C'est évidemment là, il me gêne un peu parce que franchement c'est un peu particulier et puis tu sais que normalement on doit se vouvoyer à la radio Stéphane. Bon, oui, on va éviter ça. Je disais justement qu'il y a d'abord dans ton équipe de photographes, il y a des photographes de talent, de renom, tu en es un bien sûr. Il y a Alain Galina, il y a Henri Cartman, également Yves Marché et puis
François-Xavier
Emery et aussi, enfin bref, des gens dont c'est le métier et c'est aussi la passion. L'idée de ce festival est née il y a 6-7 ans et c'est un festival qui perdure.
Oui, l'idée c'est de ne pas mettre notre travail en avant en tant qu'équipe du festival. L'idée c'est de faire partager, de faire surtout se rencontrer des photographes, des jeunes photographes et des photographes qui sont déjà reconnus. Hein, donc toujours qualité, convivialité, qualité par la programmation qui est assurée par la directrice artistique et une partie de l'équipe. Et surtout convivialité du fait que du notre petit budget, toujours la même histoire, hein, les habitants de Pierrevert accueillent les artistes chez eux. Et on rajoute volontiers partage, puisque aujourd'hui, on peut dire que à Pierrevert, le public peut rencontrer les artistes, puisque les artistes sont présents. Et ça, c'est là, on a refusé cette année plusieurs dossiers parce que les artistes ne pouvaient pas venir. Donc le public, quand il vient à Pierrevert, rencontre les artistes. Et ces artistes qui sont, on rappelle une chose, c'est que qualité par ces dossiers, qui sont soit de la photo de mode, soit du documentaire, soit du conceptuel, mais il y a la ligne directrice, c'est uniquement la qualité. Donc l'année dernière, on a eu Jean-Daniel Lorieux, qui est grand photographe de mode, et Bernard Plossu, que tout le monde connaît. Ce sont deux personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées, et c'est ce qui se passe à Pierrevert. Il y a une rencontre.
Il y a également le fait que ce soit entièrement gratuit. Il y a beaucoup de choses, sauf la leçon de photographie. Je sais que tu n'aimes pas ce terme, mais bon, c'est quand même un moment fort et on en parlera tout à l'heure avec Sacha, la marraine de cette année. On parlera également de la sélection avec Margot Aubin, qui est à nos côtés. Mais tout d'abord, je voudrais vous présenter Fabienne Crébazac, qui est adjointe au maire de Pierrevert. Elle est nouvellement adjointe au maire. André Mille, le maire de Pierrevert, n'a pas pu être des nôtres. Vous êtes adjointe à la culture, Fabienne. Bonjour, c'est une chance pour votre commune en fait d'avoir un festival comme les Nuits Photographiques de Pierrevert.
Oui, bonjour. Bonjour, merci de me donner la parole. Oui, donc effectivement, c'est une manifestation qui réunit des photographes du monde entier et même des débutants. C'est un échange entre habitants et photographes. Et pour la nouvelle municipalité, c'était une évidence de continuer cet événement qui devient grandissant au fil des ans.
avec hier l'intervention lors de l'inauguration du vice-président de la DLVA, autrement dit de l'agglomération dans laquelle est adhérente Pierre Vert, et qui va apporter son soutien aussi à cette manifestation, et en fait qui va prendre le relais de la commune.
Oui, la DLVA donc prendra l'année prochaine logiquement la suite de la manifestation.
Merci Fabienne Crébaza de cette intervention. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet, à moins que Stéphane ait...
Je voulais juste rappeler une petite chose. Margot qui est à côté de moi, nous sommes très fiers d'avoir Margot au sein de l'équipe, puisque en tant qu'équipe des Nuits Photographiques, on est très fiers d'avoir pu créer un emploi, puisque Margot est notre directrice artistique. Elle a ce titre et on lui fait entièrement confiance pour la sélection des dossiers.
Est-ce que tu savais que c'était à son tour de parler maintenant ?
Oui.
Oui,
voilà, c'est pour ça que je te...
C'est une belle transition. Voilà. Merci Stéphane. Bonjour Margot Aubin, directrice artistique donc des rencontres des nuits photographiques de Pierre Vert. Comment s'est effectuée la sélection des photographes qui exposent ici même ?
Bonjour François. Nous avons énormément communiqué sur l'appel à candidature pour pouvoir brasser un maximum de personnes de dossiers, essentiellement sur des sites culturels comme le CNAP, des magazines photos spécialisés. L'appel à candidature a pris fin mars. Nous avons eu à peu près 300 dossiers. Nous avons fait une sélection d'à peu près une quarantaine de photographes. Le fait d'avoir énormément de dossiers permet d'avoir... une meilleure sélection et de monter en qualité et vraiment d'ouvrir le photographe à professionnel ou amateur ou grand...
D'avoir aussi une diversité aussi bien sur les supports photographiques que sur les sujets, que sur les approches de la photo.
On n'impose aucun thème. Chaque photographe propose une vingtaine de photos sur un sujet cohérent. Donc chaque photographe va proposer un thème sur le reportage, sur du portrait, sur de la mode. Donc ça va être le fil conducteur du festival. On n'a pas de thème imposé, on diversifie un maximum les sujets, mais chaque sujet a une sa cohérence, et c'est cette diversité qui fait la force du festival justement.
Le jury qui sélectionne, ce sont les photographes de l'organisation, enfin de l'association.
Les membres de l'équipe, oui. On a Henri Katman, Alain Gualina, François-Xavier Emery et moi-même.
Donc c'est vrai que là, il y a un critère de qualité qui doit être important, parce que ce sont de très bons photographes tous.
Oui, puis on est tous dans des univers très différents, donc c'est là où ça devient intéressant. On argumente selon nos coups de cœur et notre propre sensibilité, et ça permet d'avoir justement une diversité et de la qualité.
Et c'est une diversité qu'on vérifie dans toutes les expositions qui sont étalées dans tout le village, voire même au-delà, puisque jusqu'à Montfuron, il y a des expositions. Il y a combien d'expositions en tout, Margot ?
Il y a 12 exposants. Il y a Mylène Zizzo qui sera présente tout à l'heure, qui présente une série de photos de portraits sur la maladie du Noma. On a des photos de plutôt paysages comme Gérard Staron, Christophe Niel, photos de mode Chloé Nicosia, de paysages un peu modifiés Zachary Gaudry-Auroi, Julie Bourges qui sera aussi présente tout à l'heure, qui a fait un très beau travail sensible et poétique.
Elle va en parler dans un instant. Et puis il y a également une opportunité, et là c'est très émouvant, parce que c'est un hommage qui est fait à Camille Lepage, qui est une photographe qui est décédée, qui a été assassinée en Côte d'Ivoire,
en
Centrafrique.
Au mois de mai, oui.
Comment ça s'est passé justement pour avoir des photos de Camille Lepage, des photos posthumes?
Donc j'ai appris la mort de Camille Lepage en lisant les journaux. J'ai été assez bouleversée par son décès. J'ai appris qu'elle faisait partie du studio de Hans Lucas, qui est co-dirigé par Wilfried Estève, qui était présent l'année dernière. Donc j'ai contacté Wilfried en lui disant que je souhaitais rendre un hommage à Camille Lepage. Et lui-même m'a mis en contact avec d'autres membres du studio. Nous avons après pris contact avec les membres de la famille de Camille Lepage. Après plusieurs accords de mail, ils m'ont donné un lien pour que je puisse récupérer les photos de Camille. Et avec l'ingénieur son du festival, Nicolas L'Espagnol-Rizzi, nous avons travaillé ensemble pour une bande-son afin d'être au plus proche de l'univers de Camille et pouvoir lui rendre un hommage sur son décès prématuré.
Il y aura donc une projection, c'est ce soir ?
Ce sera dimanche soir.
Dimanche soir, une projection hommage, évidemment, et ça permettra aussi de rendre hommage à tous les photographes qui prennent des risques terribles pour nous informer. par l'image, mais également aussi des fois par le texte sur des situations dramatiques dans le monde et des situations qui demandent notre attention, nous, un pays dit civilisé. On en parlera tout à l'heure justement avec Mylène Zizo pour ce qui est de la maladie du Noma au Burkina Faso. Merci Margot, vous restez avec nous évidemment pour des interventions. On va demander à Julie Bourges de prendre un micro, elle est à côté. Bonjour Julie.
Bonjour François.
Première participation à Pierre Vert.
C'est ma première participation à Pierre Vert.
Alors Julie Bourges, c'est une jeune photographe, elle est de culture hispanique et elle a un parcours assez étonnant, elle a à la fois une recherche journalistique mais aussi esthétique.
Alors en fait, moi je suis venue effectivement à la photographie au départ plutôt par le photojournalisme. Au départ, quand j'ai commencé la photographie à l'adolescence, les photographes qui m'intéressaient, c'était vraiment des gens comme Raymond Depardon, Cartier-Bresson. Et du coup, à l'âge adulte, quand j'ai commencé à essayer de devenir photographe, j'ai fait une formation de photojournalisme. Et du coup, après cette formation, pendant 3-4 ans, j'ai essayé de devenir photojournaliste, mais ça pêchait toujours. J'arrivais pas à trouver mon écriture, c'était compliqué. J'avais un job à côté, mais c'était vraiment difficile. J'arrivais pas à trouver ma place dans ce milieu-là. Et parallèlement à ça, je faisais des photographies la nuit dans Paris par plaisir. C'était vraiment quelque chose que j'adorais faire, me promener dans Paris la nuit. Moi, à la base, je suis normande, donc voilà, c'était la capitale. C'était voilà vraiment un grand plaisir de photographier, de faire des belles images de Paris. Et un jour, j'ai lu un livre de Jean Baudrillard qui s'appelle « Car l'illusion ne s'oppose pas à la réalité ». Et c'est un livre qui m'a beaucoup marquée. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit dans ce livre, mais il y a quelque chose qui m'a touchée. Il explique comment on pense maîtriser le monde en faisant des photographies. Et en fait, c'est le monde qui nous maîtrise. Et c'est pas, on pense choisir ce qu'on photographie. Et en fait, c'est les choses qui choisissent d'être photographiées. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup marqué. Enfin, le renversement de point de vue m'a beaucoup marqué. Et je me suis mise après ça, malgré moi, à faire des photos différentes, à faire des images que j'aurais jamais faites avant. Mais c'était presque malgré moi. C'était vraiment quelque chose qui m'a surprise. Et du coup, en fait, j'ai continué cette série comme ça, que j'ai appelée Umbra. Alors, Umbra, c'est un mot latin qui veut à la fois dire ombre et reflet. J'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était aussi utilisé pour désigner les fantômes. Donc si vous allez voir mon exposition à la chapelle Saint-Patrice, vous verrez que c'est plutôt adapté à la série. Et c'est vraiment pour moi cette série, c'est vraiment comment transformer un espace, un territoire urbain en espace plutôt mental. C'est vraiment des projections de moi, de mon intimité, de mon univers dans l'espace urbain.
Et dans Umbra, il n'y a pas un seul personnage.
Il n'y a personne, mais il y a beaucoup de fantômes dans Umbra. Je pense que
des ombres. Voilà.
En fait, je pense que dans mon travail, je suis vraiment. En fait, du coup, de faire tout ce trajet-là dans mon parcours, de m'éloigner un peu du photojournalisme, je me suis vraiment permis d'aller vers des choses plus intimes, plus abstraites, plus énigmatiques, qui, je pense, me correspondent beaucoup plus. Et là, j'ai vraiment trouvé ma place. Et ça a été vraiment. Et j'ai surtout retrouvé le plaisir de faire des photographies que j'avais un petit peu perdu dans le fait de vouloir absolument devenir photographe professionnel, de rentrer dans le cadre du photojournalisme, et qui, je pense, ne me convenait pas forcément. Et du coup, dans mon travail aujourd'hui, je pense que la question la plus importante pour moi, c'est de comprendre comment on peut capter l'invisible, comment on peut photographier des choses qui sont pas concrètes, de photographier des questions, des ambiances, des sensations. Voilà, c'est ce que j'essaye de capter le plus. Donc vous pourrez voir à la chapelle Saint-Patrice si vous y allez, si vous
pendant,
y
passez. Pendant le festival, et c'est un cheminement que vous proposez. Vous accompagnerez vos spectateurs, entre guillemets, vos visiteurs à la chapelle.
Alors moi, j'y étais vendredi, donc c'était très agréable parce que du coup, ça permet vraiment un échange et de parler de la série, parce que c'est un travail que j'ai fait à Paris, mais je ne dis pas dans le texte de présentation que c'est un travail que j'ai réalisé à Paris. Et du coup, souvent, j'aime laisser les gens se promener dans l'exposition et en parler après. Et souvent, les gens sont assez surpris, effectivement, puisque c'est une vision très personnelle de Paris. Et alors, ce qui est drôle, c'est que souvent, à Paris, on dit « Ah bah tiens, c'est l'Italie ». En Italie, on dit « Ah, on dirait le sud de la France ». Donc voilà, on est dans le sud de la France. Donc, et puis, ce qui est génial, c'est qu'il y a les cigales en fond sonore. Donc, c'est parfait. Le lieu est très beau et correspond vraiment très bien à la série.
On peut chercher en vain et la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe.
Ah non, là, vous les trouverez pas. Mais vous pouvez chercher.
Merci, Julie, de votre présence. Bon festival. On rappelle aussi que vous faites d'autres travaux photographiques. Vous avez fait des portraits, des galeries de portraits assez assez, assez importante. Et puis un travail sur le flamenco, ça ne m'étonne pas du tout.
Tout à fait. Et par contre, donc, il y aura aussi la projection. Enfin, Umbra était aussi. J'ai fait une vidéo avec un réalisateur qui s'appelle François de Montrémy à partir d'Umbra. Et c'est un travail très intéressant parce que c'est qu'elle, je lui ai laissé un peu carte blanche, je lui ai donné des informations, des indications. Et lui, en fait, il a vraiment travaillé l'image, mais pas comme un diaporama, une image après une image. Il a vraiment fait un travail avec l'image, avec le son de transformation, et qui renforce, je pense, le côté énigmatique de la série. Et voilà, c'est vraiment très intéressant. Et voilà, je vous invite à la voir. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera projetée, si c'est ce soir ou demain soir, mais voilà, ça complète bien la série, je pense. C'est intéressant de voir les deux.
Et puis on peut vous contacter aussi pendant le festival ici même.
Je suis là jusqu'à lundi, je ne bouge pas.
À Pierre Vert, c'est une chance pour tout le monde. Merci Julie. Laurent Guette est à nos côtés. Alors Laurent Guette, c'est un, on peut même dire quasiment le régional de l'étape. Bonjour Laurent.
Bonjour François.
On se connaît bien, il habite Manosque et puis il œuvre dans la photographie depuis déjà des années. Mais Laurent, cette fois-ci, on va se tutoyer comme on a fait avec Stéphane tout à l'heure. Tu as proposé une exposition un petit peu particulière puisque on n'est plus dans tes photographies habituelles de sport de glisse ou de sport aérien, de photographies un peu spectaculaires, sport particulier. Tu as eu une démarche spéciale.
Oui, cette année, j'ai décidé peut-être de me surprendre ou de surprendre peut-être les visiteurs qui sont tellement habitués à voir mes photos. Bon, je ne parle pas de mon travail ici sur la communauté d'agglo, mais mon travail personnel sur le sport nature. Et cette année, j'ai décidé de me lancer un petit challenge en changeant complètement de vision. Et j'ai travaillé sur en fait les détails de notre environnement, essayer de les révéler sous un autre jour. Alors quelque chose d'esthétique ou pas, je sais pas. J'ai vraiment essayé de montrer la confrontation entre le milieu naturel et le milieu urbain. Donc ça a été un exercice un peu difficile. J'ai du mal à en parler parce que je me retrouve pas encore. J'ai pas assez l'habitude de faire ce travail.
Comment est-ce que tu as déclenché, c'est-à-dire que tu as été à l'instinct, enfin tout d'un coup il y a quelque chose qui t'a provoqué et tu as déclenché ton appareil. Comment ça se passe?
Ouais, c'est moi en tant que photographe sportif, je travaille souvent. Bon, le sport c'est un domaine où il faut beaucoup d'instinct, surtout que c'est pas des sports d'actualité, hein. C'est du sport où on va chercher quelque chose de particulier, donc faut ressentir les choses. Et en fait, sur ce travail-là, j'avais commencé à faire un petit travail sur des détails de plaques d'égout, c'est tout bête, mais toujours mouillé avec des reflets, des trucs comme ça, et je savais pas trop comment faire. Et puis je suis parti à Madère. Et à Madère, j'ai découvert en fait cette île qui est vraiment très particulière, qui est très volcanique, qui est très accidentée, mais qui a été complètement domptée par l'homme. Et il y a des travaux mais pharaoniques sur cette île pour pouvoir circuler et tout. Il y a des centaines de kilomètres de tunnels, des routes incroyables. Et surtout, il y a une architecture routière qui est très particulière. Et ça m'a donné cette envie de voir ce rapport entre justement l'homme qui a dompté cette nature. Et là, il y a des choses très graphiques qui sont mises en place. Et progressivement, avec le travail que j'avais fait avant, j'ai pu faire des rapprochements entre donc les oppositions de couleurs, de formes, de matières. Et ce qui m'a donné l'idée de monter justement ces oppositions photographiques.
On rappelle aussi que tu es un habitué des expositions urbaines à Gréoux-les-Bains, notamment avec notre ami Alain Gualina, avec Hans Sylvester et Jean-François Mutzig aussi, des photographes bien connus et qui vivent pour la plupart dans notre région. Qu'est-ce que tu trouves toi de particulier dans ce festival ici à Pierre Vert?
Ben déjà, moi je fréquente souvent un seul festival en France, c'est Visa pour l'image, dans le reportage, parce que j'ai plein d'amis reporters et c'est un festival que je fais depuis de nombreuses années. Mais Visa c'est une grosse machine, c'est très intéressant pour les contacts et il manque, je pense, en France des festivals photo qui permettent justement cette rencontre, mais à un autre niveau, quoi. pas obligé de prendre des badges, de payer des entrées, de faire des rendez-vous ou autre. Là, on peut se rencontrer sur le coin au coin d'un bar, parler d'expo. Et même si ce festival a grandi depuis 6 ans, ce qu'il y a d'intéressant, c'est justement cette intimité. Cette intimité où tous les photographes sont accessibles. Je parle des grands photographes qui viennent nous voir, les parrains et les marraines, où on peut discuter, on peut parler, ils sont à notre niveau. Et ça, c'est quelque chose de très important. Moi, je le sais parce qu'à Biza, j'ai la chance de rencontrer aussi des grands photographes parce que je fais partie d'une sphère, d'un de mes fournisseurs de matériel qui me permet ces rencontres. Mais sinon, on ne peut pas, quoi. Le commun des mortels n'a pas accès à ça, quoi.
Ce qui est intéressant aussi, c'est le côté réciproque de l'affaire. L'année dernière, par exemple, Jean-Daniel Lorieux, qui était ravi d'être à Pierre-Vert et puis de rencontrer des jeunes photographes, des gens pleins d'idées, plein d'allants et plein de talents également. Et donc là, c'était une bonne surprise et un beau contact pour tout le monde.
C'est une des particularités, justement, où les grands, qui sont souvent, enfin, pour nous, ils sont dans une sphère, dans une bulle. Et je sais pas, ça faudra poser la question à Peter, à Sacha, comment ils ressentent ça. Mais c'est vrai que là, on n'a pas l'impression d'être peut-être moins bon ou meilleur. Tout le monde est pratiquement sur le même plan et surtout, on apprend énormément.
Et les gens se respectent aussi, c'est important.
Ça, c'est...
Merci Laurent, on signale que ton exposition est visible à la salle polyvalente à Pierre-Vert pendant toute la durée du festival. Elle est à l'abri cette année, c'est important parce que l'année dernière tu as été victime d'un orage terrible qui a détruit pas mal de tes photos. Ouais. Cette année elle est à l'abri, elle est ici à la salle polyvalente. Merci encore Laurent Guette,
merci à
bientôt.
Toi,
on va parler maintenant de questions de diffusion de la photographie et quasiment des marchés des reportages. Et il y a un collectif qui est présent ici au Nu Photographique de Pierre-Vert, c'est le collectif ITEM. Et il y a un membre de ce collectif qui est notre invité, il s'agit de Bertrand Godillière. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
On peut rappeler en deux mots, trois peut-être, ce qu'est le collectif ITEM.
Ouais, je vais rebondir sur ce qu'a dit Laurent justement, parce que nous on est vraiment issus de la culture Visa pour l'image, où moi à titre personnel je trouve que justement c'est un festival qui est hyper intéressant, parce qu'il y a aussi la gratuité pour le public comme à Pierre-Vert. On est ravis de faire partie de l'aventure de Pierre-Vert aussi, parce qu'on est pour l'accessibilité facile à la photographie. Moi, je pense que Visa, c'est justement un lieu d'émulation, parce qu'on peut rencontrer très facilement les photographes du monde entier, qu'ils soient connus ou moins connus. Et on est vraiment issus de cette culture-là où, à un moment donné, en sortant de Visa, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait nous-mêmes travailler d'une manière efficace dans le milieu du photojournalisme à la base. Et l'idée du collectif, c'était pas nouveau, hein. Les premiers collectifs, c'est à la fin c'est début 80, et puis après il y a eu des vagues successives. Nous on fait partie de la vague de début 2000 avec des collectifs comme Transit, Argos, etc., et plein d'autres qui aujourd'hui existent encore. L'idée, c'était de mutualiser les moyens, c'était de mixer des principes de solidarité et puis d'échange et d'indépendance en fait. C'était en gros le collectif pour nous, c'était être indépendant sans être seul, c'est-à-dire pouvoir continuer à travailler, à produire et à diffuser de la manière dont on voulait, sans être seul, et faire face aux problématiques qui étaient déjà, ça fait 13 ans qu'on existe, qui étaient déjà des problématiques liées à l'économie du milieu professionnel dans lequel on était, tant au niveau de la production que de la diffusion. Donc voilà, donc en fait c'était le principe du collectif, c'était se réunir pour aller plus loin ensemble. On était 3 au départ, aujourd'hui on est 9. Il y a 6 photographes: Hugo Rib, Morgan Fache, qui étaient des proches d'ailleurs de Camille Lepage, Franck Boutonnet, Romain Etienne, Henri Grandjean et moi-même. Et puis dans l'équipe il y a aussi une réalisatrice vidéo qui s'appelle Christina Firmino, un graphiste qui s'appelle Yannick Bailly et notre chargé de projet Mika Sato.
Bertrand, quels sont vos clients?
Nos clients aujourd'hui, on travaille à la fois pour la presse et pour des commandes institutionnelles ou pour des entreprises, ce qu'on appelle le corporate. Aujourd'hui, on a une activité qui est multiple, comme la quasi-totalité des structures qui fonctionnent sur le marché de la photographie, parce que c'est très difficile de tirer un revenu uniquement de la presse aujourd'hui.
Le fait d'être en groupe, ça vous permet d'être plus costaud pour aller démarcher, entre guillemets ?
Alors, ça nous permet d'avoir en tout cas une actualité qui est constante, c'est-à-dire que le temps de production peut être parfois long. Aujourd'hui, on travaille aussi sur des projets multimédia qui demandent un peu plus d'investissement en termes de temps. Et ça nous permet effectivement d'être présent tout le temps, parce qu'il y a toujours un photographe qui vient de finir de produire un sujet ou qui présente un projet ou qui est présent à un festival, à une bourse, un concours, etc. Donc ça permet ça, ça permet d'exister en permanence, de pas avoir de creux, effectivement. Et puis ça permet surtout, c'est ce qu'on propose dans la projection qui a lieu donc en deux parties ce soir et demain soir, c'est surtout une manière, c'est une forme de résistance, une forme de résistance douce, une forme de résistance. Je crois que la première résistance, c'est la résistance à la facilité, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, confronter son travail en permanence au regard des autres, ça permet de ne pas de rester dans un certain niveau d'exigence. Et ça, pour nous, c'est le plus important, rester dans un niveau d'exigence par rapport à la photographie, je dirais, documentaire, dans son acception la plus large. C'est-à-dire qu'on travaille aussi bien sur des sujets d'actualité, plutôt avec une approche photojournalistique, mais aussi sur des sujets un peu plus sur le long cours, avec une approche plus documentaire.
Et vous êtes confronté forcément au monde des exigences du secteur marchand de la presse, notamment.
Alors, on est confronté à cette problématique-là, effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, produire, ça coûte de l'argent et c'est très rare d'être payé à hauteur de ce que coûte une production. Et aujourd'hui, on axe aussi notre développement sur le multimédia et on est confronté aux mêmes problématiques. Donc aujourd'hui, être à Pierre Vert, pour nous, c'est important. Parce que ce qu'on cherche, c'est à toucher des publics différents en montrant notre boulot de manière un petit peu différente. Donc là, le système des projections, c'est ce que disait Julie, c'est de sortir du diaporama simple où on va enchaîner image par image avec une bande sonore, mais c'est de trouver des dispositifs de réalisation qui correspondent au sujet qu'on veut montrer et qui permettent de le rendre accessible d'une autre manière à un public lors d'une projection. Donc en fait, on a construit cette projection-là avec à chaque fois un dispositif adapté au sujet qu'on proposait. Voilà.
Une belle démarche et on vous souhaite tout le bonheur que vous pouvez avoir en exerçant votre passion, Bertrand.
Merci beaucoup.
Vous et vos amis. On va faire une petite pause musicale avant d'accueillir la marraine de l'édition. On a trouvé un système un peu particulier pour l'attirer, vous allez voir.
Yeah.
sommes toujours en direct de Pierre Vert pour une émission spéciale. On retrouve François Malbave.
Oui, tout de suite après le tube des années 60, Venus des Shocking Blue, un groupe né en Hollande et qui a fait danser des générations de petits et grands Européens. Elle est hollandaise elle aussi, mais partage son temps entre Paris et Marrakech. Entre les deux se trouve Pierre Vert. Et elle a accepté d'être la première marraine des nuits photographiques de Pierre Vert. Bonjour Sacha.
Bonjour François.
C'est un honneur pour nous de vous recevoir et à vos côtés un presque Pierre Verdant et un ami de 50 ans de Sacha. Il s'agit de Peter Knapp qu'on est très ravis de retrouver à Pierre Vert. Bonjour Peter.
Bonjour.
On peut rappeler ce qui fait Sacha que vous connaissez et vous connaissez particulièrement bien Peter Knapp. Peter a envie de parler aussi, hein. Il parle quand il veut, vous le savez.
Bien sûr.
Allez.
En fait, c'est grâce à Peter que j'ai commencé mes premières photos pour le journal Elle. Et c'est lui qui m'a donné la chance de commencer à travailler. Je suis venue de la Hollande, je suis allée voir Peter. Et puis, au début, j'étais assistante. Et puis, malheureusement, le jeune photographe avec qui j'ai travaillé suite à un accident a été opéré et puis est décédé. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai assisté un petit peu à droite et à gauche. Et Peter m'a donné... j'ai commencé à faire quelques photos que je lui ai montrées, des enfants, des petits vêtements sur des enfants. Et en fait, il a dit, bon, mais c'est pas la peine qu'on recommence à photographier ces vêtements. Ça va très bien, on va les passer comme ça. Et petit à petit, comme ça, j'ai commencé. Et puis, mon premier vrai grand travail, c'était un voyage à Saint-Paul-de-Vence, dans la fondation MACT, qui venait d'être créée. Et je pense qu'à partir de là, il y avait Peter Knapp, et puis il y avait Fouli qui jetait un œil. Et Fouli a dit, ah, tu sais, tu vas voir, tu vas travailler toujours. Et voilà.
Et vous avez travaillé, faut-il le souligner, dans des grands magazines, que ce soit Elle aux côtés de Peter Knapp,
oui.
Ou bien Vogue, Marie-Claire aussi.
Marie-Claire, une grande période. Une fois que Peter est parti de Elle, je ne souhaitais pas continuer, je voulais également partir. Et puis après, c'est Claude Brouet de Marie-Claire qui m'a demandé de faire des photos pour le journal.
Peter Knapp, quand on est directeur artistique d'un journal comme Elle et qu'on voit une jeune fille arriver de Hollande, comment on fait pour lui donner sa chance? Est-ce que c'est toujours possible à l'heure actuelle, par exemple?
C'était déjà très joli à voir, une jeune fille qui arrivait de Hollande.
Merci.
Et puis, c'est ce qu'elle appelle la première chance. En réalité, c'était photographier des modèles à la fondation MACT à Saint-Paul-de-Vence. Et ce qu'elle a ramené, j'ai immédiatement vu qu'il y avait le talent. Parce qu'elle a créé un intérêt pour la femme photographiée, mais elle s'était accompagnée aussi de ce lieu qui est un peu magique.
Le lieu est architecte. Une architecture très intéressante et puis
c'était quand même la présence de Giacometti avec des personnages. C'est là où tu as créé une liaison qui me fait dire tu as du talent, hein. Et puis pour parler des qualités de Sacha, ça veut dire vous avez un photographe de mode, c'est en soi, ça sonne un peu creux. Et d'ailleurs, c'est laid si on le voit comme ça. C'est-à-dire que Jean Lussieff disait « La photographie de mode n'existe pas » parce qu'il voulait dire, évidemment, c'est une information, la forme d'un vêtement. Mais au-delà de ça, si vous n'êtes pas capable de vous y mettre d'une certaine manière, de voir, de penser ou de chromatique ou de contraste noir et blanc, je veux dire que on n'y rentre pas dans ce petit groupe qui finalement est publié rédactionnellement. Et Sacha a quelque chose de formidable, on peut le voir dans son livre, une fois sur deux, la femme ou le mannequin qui pose ne regarde pas dans la caméra. Ça veut dire, elle, son image est discrète, puisque vous n'êtes pas attiré à première vue par le personnage, mais ça permet une lecture, et cette lecture de l'image est l'information, est y compris, mais la qualité visuelle ou pictorale qu'elle apporte y est aussi.
Est-ce que vous pensez que le fait que ce soit une femme apporte cette différence par rapport aux autres photographes de mode ?
Dans son cas, indéniablement. Mais de toute façon, vous savez, ça c'est le grand changement. Il n'y avait pas de femmes photographes de mode à ce début des années 60. Je veux dire, il y avait de temps en temps une Liliane Bassmann, enfin, mais c'était exceptionnel. Aujourd'hui, quand je regarde les journaux, il y a presque autant de noms de femmes que...
Oui,
de,
il y a beaucoup. Hein? Oui,
non,
beaucoup,
non, ça
oui.
a beaucoup changé.
Oui,
et puis, il y a quelque chose, la femme regarde la femme autrement que l'homme. Hein? Et donc, ces deux visions sont valables. Moi, quand j'ai commencé de travailler au journal Elle, j'ai compris que la directrice, c'est-à-dire Hélène Lazareff, elle attendait que la femme qu'on photographie, ou le mannequin, enfin, elle voulait justement qu'on le voit comme femme et pas trop comme mannequin, soit séduisant. Et le slogan qui était à l'époque sur le journal, c'était le journal de la femme que les hommes regardent. Ça veut dire la séduction est importante. Mmh.
Sacha, lorsque vous prenez des photos, vous adorez vous retrouver en milieu extérieur et pas dans un studio.
Oui.
On sent bien qu'il y a cette volonté de coller à la nature, même si c'est pour des photos de mode. Et puis, il y a un élément qui est important aussi dans vos photos et qui nous convient parfaitement sur une radio qui s'appelle Fréquence Mistral, c'est le vent.
Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup besoin de vent.
Ça donne de la vie à vos photos aussi.
Oui, déjà l'extérieur... m'aide énormément parce que je ne peux pas projeter ce que je veux faire. Je suis tributaire de ce qui m'arrive. C'est-à-dire, peut-être j'ai pensé de faire ma photo d'une certaine façon, avec une certaine lumière, et puis en réalité c'est infaisable parce que ou le vent est dans le mauvais sens, ou ça colle pas avec la lumière, ou il y a un autre problème. Donc je dois me débrouiller. Et ce qui me pousse vers la recherche de l'image, parce que c'est la difficulté, c'est un peu la chasse, quoi.
Le vent vous aide dans ces cas-là?
Mais je trouve que le vent donne quand même beaucoup d'élégance à un vêtement. Enfin, il peut aussi l'écraser totalement, mais je pense que ça, il y a souvent quand même, vous voyez une chose dans le vent. Il y a un moment insaisissable et c'est celui-là que je cherche.
Sacha, pendant près de 50 ans, vos photos, vous les avez exploitées, découvertes, regardées, visionnées sous la format d'un magazine. Et depuis 2-3 ans, tout d'un coup, vos photos ont pris des dimensions exceptionnelles, très grandes, puisqu'elles ont été affichées aussi bien à Cannes qu'ici à Pierrevert, dans la cave coopérative, ce qui est un endroit assez emblématique de ce village. Quel regard vous portez justement sur ces agrandissements?
Et puis en 2011, à l'Institut néerlandais, qui m'a consacré une rétrospective, et c'est depuis que je suis allée, ces choses se sont succédées après.
Alors quand on voit une de Marie-Claire qui fait plusieurs mètres carrés, qu'est-ce qu'on ressent? En plus quand on sait que c'est sa photo qui est sur...
Oui, c'est énorme, parce que c'est vrai, j'ai l'habitude de voir les photos dans le magazine, et je ne les ai jamais vues agrandies, j'ai jamais agrandi des photos. Donc c'était drôle aussi, par exemple, de voir à Cannes, où j'ai souvent travaillé, de voir les photos accrochées.
Vous avez noté les réactions du public, justement, par rapport à ces unes de magazines, tout d'un coup, qu'on explique au public que ce sont aussi des objets artistiques, ces unes de magazines. Vous avez eu des réactions particulières?
Oui, mais bon, pas particulièrement, non.
Les gens sont un peu blasés peut-être maintenant.
Je ne sais pas. C'est...
Et votre exposition à Pierre Vert, qu'est-ce que vous en pensez vous-même à la cave coopérative?
Mais c'est très sympathique. Bon, c'est un peu improvisé, si vous voulez. Et puis, je ne m'attendais pas que c'était dans une cave... enfin, je ne voyais pas ça comme ça, mais c'est très bien, c'est très amusant.
Vous avez accepté d'être marraine de ce festival, Sacha. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est à la fois un honneur, c'est une gratification envers des amis photographes?
Bien sûr, c'est un honneur. C'est également une responsabilité.
Et oui, vous êtes la première marraine. Ils n'ont eu que des parrains ici, vous le savez.
Et puis, on n'aimerait pas décevoir. Alors voilà.
Mais je peux vous garantir que vous ne décevez pas. Ni en termes humains, ni en termes artistiques, évidemment. Et ce n'est pas Peter Knapp qui va dire le contraire, lui qui est un habitué de ce festival, n'est-ce pas, Peter?
Oui, ça garde toujours encore les rencontres de Arles. C'est devenu une usine. Hein. Mais au début, c'était effectivement des rencontres. Et c'était porté par un homme qui était Lucien Clerc, hein, qu'on connaît bien. Et lui... Il a regretté quand ça a pris une autre dimension. Il avait aimé tant que c'était les copains. Et d'ailleurs, ce n'était pas tellement même montrer des photos. C'était beaucoup plus comme ici, un peu radio. C'était se parler entre.
Échanger.
Et tout à l'heure, on a parlé d'un collectif. Et à l'époque, justement, tout le monde était un peu isolé. Et on avait envie de... D'échanger, de comparer les visions, d'où vient une idée, qu'est-ce qu'on en fait avec. Et dans un collectif, on se voit tous les jours et on est créatif l'un pour l'autre. Et je crois que c'est effectivement une chose actuellement où l'image fixe perd beaucoup de sa gloire, puisque le spectateur est devenu audiovisuel. Il a eu une éducation audiovisuelle. Alors, pour continuer à donner une puissance à l'image fixe et de le proposer comme une lecture, il faut absolument introduire de la créativité. Et je pense qu'on peut être plus créatif en échangeant des suggestions et des critiques. J'ai le temps de vous raconter une... anecdote.
Très brièvement, Peter, s'il vous plaît. Mais c'est possible.
Dans les années 60, personne n'avait un téléphone, ni fixe, ni mobile. Donc, on se voyait dans une galerie, Galerie Europe. Il y avait César, il y avait Armand, il y avait Ickeli, enfin, c'est-à-dire tout le groupe des nouveaux réalistes. Et là, il y avait César qui était extrêmement... il doutait. Et il doutait surtout parce qu'il était épaté par les socles de Giacometti, par les socles de Brancusi, et il croyait toujours qu'il fallait qu'il trouve un socle. Il était dans une usine où il y avait des compressions. Et un soir, il vient, il pose une compression et il pose une petite sculpture dessus. Et Armand regarde et lui dit « Pourquoi socle ?» C'est-à-dire que cette décision de la compression est venue d'une critique, parce que ni les statues de César avaient besoin d'un socle, ni la compression de César avait besoin d'une statue dessus. Donc, vous voyez, ça, c'est pas fait seul, ça s'est fait en conversation.
Et c'est vrai aussi que ça a permis peut-être quelque part d'éduquer le regard du public et tout d'un coup de donner du sens et un sens esthétique aux compressions de César et le public maintenant admet tout à fait qu'on puisse faire une œuvre d'art avec une compression alors qu'au départ c'était plutôt provocateur de la part de César.
Quand on est entre visuels, on n'a pas besoin de se parler beaucoup pour expliquer ce qui est devant, mais le public a besoin d'un pont. Et dans le cas de l'image fixe ou dans la peinture ou sculpture, je crois que la parole est souvent ce pont.
Merci Peter de ce beau souvenir et qui nous a permis de retrouver des artistes de renom qui hélas nous ont quittés. À nos côtés, une jeune photographe qui propose une exposition assez étonnante à la Galerie de la Frache, ici à Pierrevert. Il s'agit de Mylène Zizot. Bonjour Mylène.
Bonjour.
Elle n'est pas très habituée au micro, on va essayer de la mettre à l'aise quand même. C'est une exposition que vous proposez et qui est assez exceptionnelle dans le sens où vous avez voulu mettre l'accent sur une maladie qui touche notamment des enfants au Burkina Faso, c'est le NOMA, et vous l'avez fait en collaboration avec un organisme non gouvernemental.
Oui, c'est ça. Tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir et merci au festival de m'accueillir et de défendre la cause avec moi. En gros, pour le parcours, en fait, en 2012, j'ai découvert, je cherchais à renouer avec l'Afrique, en fait, parce que j'étais partie pour la dernière fois en 2007. Ensuite, il a fallu que je m'établisse dans le sud de la France avec mon activité de portrait. Et du coup, en 2012, donc, j'ai voulu repartir en Afrique et j'ai voulu travailler autour de la santé des enfants, puisque j'aimais le rapport que je pouvais avoir avec eux. Et j'ai découvert des images d'enfants qui étaient atteints du NOMA. Et donc, quand j'ai vu les associations qui mettaient en ligne, certaines associations qui mettaient en ligne des images assez brutes d'enfants défigurés par cette maladie. D'ailleurs, le NOMA vient du grec numéine qui veut dire dévorer. Donc, on imagine l'impact que ça peut avoir au niveau physique. Je me suis dit, je vais essayer de raconter des histoires, d'aller plus vers l'émotion, de témoigner de manière plus intimiste et toucher les gens et sensibiliser à cette cause qui touche 400 enfants par jour dans le monde. Et donc je me suis mise en rapport avec deux associations pour le moment. Une première en fait qui est basée en Angleterre, qui s'appelle Project Arar, avec laquelle je suis partie en Éthiopie. Et là j'ai pu témoigner en fait de l'importance de la prise en charge de patients qui étaient atteints de maladies faciales, notamment de cas de NOMA. Et ensuite, grâce à un docteur qui s'appelle Dominique Martin, qui est basé à Marseille et qui fait très souvent des missions de chirurgie faciale et qui intervient en Afrique depuis à peu près 15 ans, qui est vraiment spécialisé là-dessus. Je suis à nouveau partie avec son équipe, qui elle est donc une autre association, ONG, qui est basée en Suisse et qui s'appelle Sentinelle. On est parti pour suivre cette fois-ci uniquement des enfants qui étaient pris en charge et qui avaient des cas de NOMA. Donc ça touche des enfants qui ont entre 0 et 6 ans. Et l'idée, en fait, ce qui est exposé ici, à la salle de la Braque, de la Frache,
pardon. La Frache,
ouais. Ouais, du bas, c'est une série de portraits. Et en fait, c'est des portraits en format 50 par 50, donc assez grand, taille pratiquement réelle, pour qu'il y ait un réel face-à-face entre le lecteur, donc vous qui allez voir les enfants photographiés. Et je mets l'importance, en fait, sur le regard. C'est des portraits qui sont pris de face, des portraits avant opération et après opération. Donc d'une part, j'ai voulu mettre en avant l'impact de la maladie et l'horreur, et d'autre part aussi mettre en avant de manière subtile l'engagement des médecins qui les opèrent, et du coup montrer aussi toutes les nouvelles perspectives de vie qui peuvent y avoir par le fait d'avoir été opéré ne serait-ce qu'une fois. Alors que les médecins sont quand même assez frustrés parce que justement, même une opération ne suffit pas forcément. On n'est pas dans la chirurgie esthétique, on est dans la chirurgie réparatrice. C'est pas du tout pareil. Voilà.
Ce qui surprend dans votre exposition, Mylène, c'est que tout simplement, on a vu de loin, on a un portrait tout à fait classique avec un beau rendu graphique, avec un bel éclairage, avec une belle chose. Et puis tout d'un coup, quand on s'approche et qu'on voit les ravages que font les effets du NOMA sur un visage d'enfant, à plus forte raison, tout d'un coup, là, on se dit, tiens, on touche à une réalité terrible. Vous avez dit tout à l'heure, je défends une cause. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. C'est très engagé, mais justement, pour revenir au côté esthétique, en fait, ça m'est paru évident, notamment de travailler en noir et blanc et au format carré, et ajouter une esthétique qui m'a semblé nécessaire, en fait, parce que, par exemple, les photos que j'avais vues en couleur, elles étaient assez brutes et... on avait juste envie de fermer le site, en fait, parce qu'on ne voulait pas donner, alors que le but, c'est de fédérer des gens à cette cause. Et l'idée, c'était de rendre, adoucir par le noir et blanc et créer une esthétique. Là, il y a une série de portraits, mais il y a aussi des histoires qui seront, d'ailleurs, c'est une histoire qui va être projetée, donc ça va être complémentaire avec la série de portraits qui est exposée. Et du coup, ça aide le lecteur à faire face, comme eux font face à la maladie et à la douleur. Du coup, il y a cette esthétique-là qui pousse et qui aide les gens à vouloir en découvrir plus. Et ce que les retours, en général, me font comprendre, c'est que le regard est vraiment important. Ça crée un lien d'humanité entre la personne photographiée et la personne qui découvre ça et qui, du coup, a envie de savoir plus. Donc, quelque part, ça marche. Donc, c'est très bien.
Et puis, l'appréhension, évidemment, du regard du spectateur ou du visiteur par rapport à la vie de ces personnes qui sont atteintes de cette maladie, et à plus forte raison celles qui ne seront pas soignées, ça peut être complètement contrastant et en même temps déstabilisant. Donc n'hésitez pas à aller voir l'exposition de Mylène Zizo, parce que tout simplement c'est la réalité, et il y a des enfants qui souffrent de cette maladie, et on peut peut-être les aider grâce aux ONG avec lesquelles vous travaillez, grâce à votre œil aussi et à vos images.
Merci
Mylène.
Merci à vous. Je voulais juste rappeler le nom des associations, c'est Project Tarare et sentinelle.org.
Bien sûr, merci Mylène Zizo. On va finir avec un autre invité de manière un peu plus légère. J'ai le plaisir d'accueillir Daniel Jourdanet. Bonjour Daniel.
Bonjour François.
Daniel, c'est un correspondant de presse, il travaille pour le journal La Marseillaise, ici dans la région, notamment à Saint-Tulle, et puis pour l'hebdomadaire Haute-Provence Info. Vous avez donc une utilisation quotidienne de la photo. La photo pour vous c'est quoi exactement?
Ah, ça, alors là, c'est une grave question. Je ne sais pas ce que c'est pour moi. Ce que je sais, c'est que, bon, à côté de mes illustres voisins, je ne suis qu'un amateur, mais un amateur passionné, puisque j'en fais depuis l'âge de 9 ans, et j'en fais de plus en plus, surtout depuis que je suis correspondant de presse. Et je ne me prends pas pour un artiste, mais peut-être pour un bon artisan, parce que les photos que je fais sont généralement jugées bonnes. Et c'est important pour moi, parce que ce qui me plaît, c'est de les donner à ceux qui les aiment et à ceux qui sont dessus. Ça plaît toujours. Et je fais beaucoup depuis que, oui, le numérique et la correspondance de presse, je fais des milliers de photos sur Saint-Tulle. J'allais dire de tout ce qui s'y passe, pas vraiment tout, parce que je peux pas être partout tout le temps, mais beaucoup dans le domaine culturel, dans le domaine social, plus rarement dans le domaine sportif.
Le fait de couvrir l'actualité ne vous empêche pas d'avoir une vision un peu esthétique, par exemple, sur vos photos?
Ah ben bien sûr, j'essaye, notamment quand je fais des photos de spectacle au théâtre Henri Fluchère. La plupart du temps, je perds malheureusement le spectacle, parce que je suis à l'affût de l'instant où il faut déclencher. Et ça peut gêner les voisins des fois, mais j'arrive à faire des choses correctes.
Daniel, vous êtes un habitué des nuits photographiques de Pierre Vert. Quel regard vous portez sur ce festival?
Ben en fait, je l'ai découvert seulement l'année dernière et ça m'intéresse de plus en plus. Je voudrais m'y intégrer d'une manière ou d'une autre. Ce qui me plaît, c'est les rencontres multiples que l'on fait, des très belles rencontres avec des photographes et avec des gens qui ne sont pas photographes du tout, d'ailleurs. Et puis aussi de voir des images, beaucoup d'images, et alors je dirais des images qui parfois ne me plaisent pas du tout, mais alors pas du tout. Et ça, je trouve ça très intéressant de voir des images de photographes connus ou quoi, et je dis non, ça c'est, pour moi c'est pas bon. Et d'autres qui me rendent fou de jalousie, parce que je me dis, bon sang, je saurais pas faire ça moi, pourquoi je sais pas faire ça? Voilà.
Merci Daniel d'avoir témoigné de votre métier et en même temps de votre passion pour la photo. On arrive tout doucement à la clôture de l'émission. Stéphane Kosman, quel regard et que dire sur cette nouvelle émission en direct des nuits photographiques de Pierre Vert? Quel est ton sentiment?
L'émission radio d'aujourd'hui?
Oui.
Bah, écoute, un très grand plaisir, comme d'habitude, un très grand plaisir d'avoir Sacha et Peter qui, je le rappelle, viennent partager aussi leur passion de photographe au départ. Ils le font très généreusement. Je rappelle que Peter et Sacha, je ne peux pas évaluer leur tarif quotidien d'une prise de vue. Je n'ose même pas imaginer. Je tiens à dire qu'on a du mal à rembourser le TGV de Peter, qui veut à chaque fois ne rien recevoir. Donc c'est à souligner. Je suis très content d'avoir Mylène à côté de moi, puisque Mylène a été un des premiers dossiers que nous avons choisi avec Margot. J'ai moi-même travaillé sur le Noma puisque j'ai un voisin à Paris qui est chirurgien et qui depuis 25 ans opère en Afrique. Donc j'étais particulièrement sensible au travail de Mylène. Je le recommande vraiment d'aller le voir à la salle de la Frache. Je tiens à remercier mon équipe. Moi je suis un grand voyageur aussi et que mon équipe a fait un boulot extraordinaire en amont du festival, surtout l'équipe technique aussi hier soir, parce que catastrophique avec, comme vous le savez, les intempéries, on a été obligé d'annuler la projection d'hier soir, donc ça c'est évidemment on peut pas.
Mais il y a une session de rattrapage,
donc c'est la projection de hier soir sera divisée sur la projection de ce soir et de demain soir. Donc encore un grand merci à l'équipe technique qui à un moment sont allés débrancher le projecteur qui était quand même sous tension et tout ça. Donc on a eu
un bel orage
et une soirée extrêmement compliquée. Je remercierai aussi les caves qui nous supportent sur les vernissages et bien sûr Carré Couleur qui est présent à côté de nous. C'est Jacques qui est un ami de longue date qui vient chaque année et nous avons à disposition du public un plateau avec, je ne donnerai pas aussi le montant du plateau parce que mais je remercie un plateau à la portée du public, tout équipé. Leica qui montre du matériel. Tout ça, il faut les.
Et quel matériel,
voilà. On peut rêver. On peut rêver. Je rappelle que demain matin, il y a une signature de livre qui est très très importante et c'est un des grands rendez-vous du festival puisque les artistes sont là, ils signent leurs livres, il y a des images à acheter. Je terminerai en remerciant deux personnes, Sylviane Chaumont, notre ancien maire, et André Mille, notre nouveau maire. Sylviane pour nous avoir aidés dès le début, et André pour reprendre le flambeau et continuer à nous subventionner. Voilà.
Merci Stéphane, bravo à toute l'équipe effectivement et aux bénévoles de Pierre Vert qui se mettent en quatre pour ce beau festival. Je rappelle aussi qu'il y a un événement cet après-midi, c'est à 15h, la leçon de photographie avec vous-même Sacha. Qu'est-ce qui va se passer très exactement à 15h?
Je sais pas trop bien non plus.
À 15h, c'est Stéphane qui sait peut-être.
On va projeter les photos.
Voilà, et vous allez les commenter.
Et je crois qu'on peut interroger et je peux commenter.
On va lui poser plein de questions.
Mais comme ça, on verra pas grand-chose.
Vous savez, il y a beaucoup de curieux ici. Merci à tous pour cette belle session. Je signale qu'elle sera disponible sur le site internet de la radio, www.fréquencemistral.net. Et bonne photo, bonne continuation. J'en profite aussi pour remercier mon équipe qui est à côté, Pascal et Patrice. Merci à tous. Bon samedi. Profitez des nuits photographiques de Pierre Vert. C'est ce week-end.